France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Les députés entament à partir d'aujourd'hui l'examen d'une proposition de loi destinée à lutter contre le fléau du narcotrafic. Une épreuve pour le gouvernement qui tient absolument à plusieurs dispositions combattues par la gauche, mais aussi, on le verra, une partie de la Macronie. C'était il y a 5 ans, jour pour jour, la France découvrait le premier confinement. Comment entretenir aujourd'hui la mémoire de ce moment comme suspendu? On posera la question à notre invité. L'actualité à l'étranger, c'est d'abord ce coup de tonnerre en Israël. Après que Benjamin Netanyahou a annoncé vouloir limoger le chef des services secrets intérieurs, un événement inédit dans l'histoire du pays, surtout contraire au fonctionnement institutionnel. On essaiera de comprendre par ailleurs ce qui se joue derrière la double attaque perpétrée par les rebelles houthis contre un porte-avions américain en mer Rouge. Enfin, elle avait la rage au ventre. Les cinéastes belges Jean-Pierre et Luc Dardenne rendent hommage ce matin au talent et à la force de caractère de l'actrice Émilie Dequen, révélée dans leur film Rosetta en 1999 et dont on a appris le décès à l'âge de 43 ans. La semaine qui s'ouvre à l'Assemblée promet d'ores et déjà des débats à nouveau houleux. Les députés sont en effet appelés à examiner à partir d'aujourd'hui une proposition de loi visant à lutter contre le fléau du narcotrafic. Un texte certes voté le mois dernier à l'unanimité par les sénateurs dans un rare esprit de concorde nationale, sauf que l'hémicycle du Palais Bourbon n'est lui pas franchement propice aux grandes envolées transpartisanes. Pour preuve, en commission des lois, la coalition gouvernementale n'a reçu sur ce texte le soutien que du seul Rassemblement national. Et puis surtout, la proposition de loi a été amputée de plusieurs mesures phares, lesquelles font désormais l'objet d'amendements de rétablissement et qui ne manqueront certainement pas donc de créer encore la polémique. Jeanne Serrin, bonjour.
Bonjour.
En l'occurrence, les débats s'annoncent d'autant plus mouvementés, Jeanne, que des dissensions existent au sein même du gouvernement.
Oui, ils sont une petite minorité de députés à se montrer réticents vis-à-vis du texte, mais une minorité suffisante pour inquiéter Gérald Darmanin. Le garde des Sceaux, en compagnie de Bruno Retailleau, a décidé de convier ce soir les députés du socle commun à la chancellerie pour une réunion d'accordage des violons. Et pour cause, plusieurs élus du groupe Ensemble ont fait part en commission de leur réticence vis-à-vis de certains articles. Parmi eux, celui qui vise à introduire un dossier coffre pour permettre aux forces de l'ordre de ne pas divulguer certaines techniques d'enquête, un risque d'atteinte au respect du contradictoire qui interroge Éléonore Carrois, avocate et députée Ensemble.
Qui aura accès à tous les enregistrements, à toutes les collectes de données qui seraient faites, et comment est-ce qu'on a une garantie qu'elles seraient utilisées de manière équitable? Même si on est en train de prévoir une procédure exceptionnelle, il faut qu'on maintienne des garanties de droit de la défense.
Sur ce dossier, les efforts de conciliation se sont accélérés ce week-end avec des réécritures importantes, mais des pierres d'achoppement persistent sur le placement dans des quartiers ultra sécurisés des 200 narcotrafiquants les plus dangereux. À l'offensive, Gérald Darmanin, qui plaidait la semaine dernière pour une durée d'emprisonnement de 4 ans, beaucoup trop dure, jugent plusieurs députés de son camp. Alors après avoir demandé avis au Conseil d'État, le garde des Sceaux s'est rangé derrière le juge administratif et s'est dit prêt à ramener cette durée à 2 ans. Il y a la volonté d'aboutir à un accord, reconnaît aujourd'hui un député macroniste, avocat de formation lui aussi. En revanche, la démonstration d'unité risque de trébucher sur l'accès aux messageries cryptées pour les enquêteurs, mesure rejetée par la ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, Clara Chapaz, par les macronistes en commission et par en tout 9 des 11 groupes de l'hémicycle.
Merci Jeanne Serrin. Alors on parlait à l'instant des dissensions au sein du gouvernement et que dire du recadrage hier du Premier ministre par son ministre de l'économie. Hier, François Bayrou a jeté un coup de froid en fermant clairement la porte à un retour de l'âge de départ à la retraite à 62 ans contre 64 dans la loi actuelle. De quoi susciter l'ire des partenaires sociaux auxquels le chef du gouvernement, soucieux de s'éviter la censure, a confié la tâche de tenter de parvenir à un nouvel accord. Et c'est ainsi que quelques heures plus tard, Éric Lombard a tenu à rassurer lui-même syndicats et patronats en affirmant que c'était à eux de décider de l'issue de ces concertations.
3 décennies après sa dernière inspection, l'établissement Notre-Dame de Bétharram fait l'objet depuis ce matin d'un contrôle par le rectorat de Bordeaux.
Au cœur d'un scandale qui a éclaboussé jusqu'au Premier ministre actuel, François Bayrou, le collège lycée sous contrat est aujourd'hui l'épicentre d'un véritable tremblement de terre au sein de l'enseignement catholique, avec nombre de répliques, notamment dans les Hautes-Pyrénées, les Landes ou bien encore le Finistère, où des dénonciations d'agressions sexuelles et de violences similaires ont été recensées. La ministre de l'Éducation assurait qu'elle prendrait les mesures qui s'impose en fonction des conclusions de cette inspection. Et puis, plus largement, Elisabeth Borne veut renforcer le suivi et les contrôles avec un plan baptisé « Brisons le silence, agissons ensemble », censé permettre d'encourager la libération de la parole des élèves particulièrement vulnérables, notamment en internat ou lors de voyages scolaires. Concrètement, Hakim Kasmi, la ministre, veut mettre en place dans le premier et le second degré un questionnaire auquel les élèves auront accès tous les trimestres.
Ces formulaires, qui seront anonymes, seront utilisés dans deux cas bien précis. Tout d'abord pour les élèves qui seront en internat, qui devront le remplir tous les 3 mois, mais aussi pour ceux qui effectueront des voyages scolaires d'au moins une nuitée. Pour autant, si les parents d'élèves se félicitent de la mise en place de ce dispositif, ils craignent que le fait qu'il faille les remplir à l'écrit puisse être un frein. Comme l'explique Grégoire Ancel, le vice-président de la FCPE.
L'usage de l'écrit n'est pas évident pour un enfant, donc il faut absolument que le formulaire soit construit de telle façon que, quel que soit l'âge de l'enfant, il puisse s'exprimer et que ce formulaire ne se substitue pas à la possibilité de parler à un adulte et d'avoir un point avec quelqu'un qui permette d'être le relais de l'expression de cette parole.
Mais au-delà des formulaires, la question de la sensibilisation serait également très importante, d'où l'importance des nouveaux programmes d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle qui seront mis en place dès la rentrée dans le premier et le second degré, estime Grégoire Ancel.
C'est un programme permettant de protéger les enfants, d'apprendre sa relation à l'autre, d'apprendre ce que l'on peut faire avec quelqu'un, ce que l'on ne peut pas faire sans son consentement. Et donc ce programme-là est l'outil central qui doit permettre de libérer la parole et permettre aux enfants de se construire en leur relation à l'autre et de détecter quand quelqu'un a une attitude ou un geste ou un comportement inacceptable par rapport à son intégrité d'enfant et à sa personnalité.
Enfin, pour renforcer les contrôles dans les 7500 écoles privées sous contrat, Elisabeth Borne a annoncé ce matin le recrutement de 60 inspecteurs de plus dans les 2 prochaines années, ainsi que la mise en place d'équipes de contrôle pluridisciplinaires.
Midi et 36 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Les relations entre le Premier ministre israélien et le chef des services de sécurité intérieure étaient déjà connues pour être notoirement tendues avant l'attaque sanglante du mouvement islamiste Hamas. Or, depuis la publication d'un rapport d'enquête interne sur le 7 octobre, elles étaient devenues carrément exécrables. Et pour cause, puisque si dans le dit rapport l'agence reconnaît des failles dans la collecte de ces renseignements qui auraient pu alerter les autorités sur la portée de l'attaque, elle critique aussi l'exécutif et donc indirectement Benjamin Netanyahu. C'est ainsi qu'hier le chef du gouvernement a annoncé son intention de limoger purement et simplement le chef du Shin Bet. Thibault Lefebvre, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Correspondant de France Culture à Jérusalem. Alors, outre que cette annonce intervient à un moment critique en pleine négociation sur la poursuite de l'accord de trêve à Gaza, elle vient aussi susciter la discorde dans la classe politique. Puisque si les alliés de Benjamin Netanyahu au sein du gouvernement le plus à droite de l'histoire du pays saluent cette décision, en revanche, Thibault, elle est contestée par l'opposition de gauche qui menace même de saisir la Cour suprême.
Benjamin Netanyahou a eu la peau de son ministre de la Défense, Yoav Gallant, puis celle du chef d'état-major, Herzi Halevi, et c'est désormais au tour de Ronen Bar.
Depuis longtemps, je ne fais plus confiance au chef du Shin Bet. Cette décision est nécessaire pour éviter une nouvelle catastrophe.
Derrière cette décision qui couvait depuis un certain temps, il y a les conclusions du rapport interne du Shin Bet sur les failles du 7 octobre, et elles pointent clairement la responsabilité de Benjamin Netanyahou dans le financement du Hamas par le Qatar depuis 2018, mais l'élément déclencheur, c'est cette nouvelle enquête sur des proches collaborateurs du Premier ministre accusés d'avoir récemment perçu de l'argent de Doha pour favoriser l'image de l'émirat. Claude Klein est professeur de droit constitutionnel à l'Université de Jérusalem.
La question simplement est de savoir s'il n'y a pas un conflit d'intérêts qui pourrait provoquer une véritable crise constitutionnelle. Pour Netanyahou, l'une des choses qui lui importe, c'est de rester au pouvoir. Il est prêt à tout pour rester au pouvoir.
Le cabinet du Premier ministre doit voter cette semaine pour le limogeage du chef du Shin Bet. Il y aura ensuite des recours devant la Cour suprême pour lancer une bataille juridique qui ne fait que commencer.
Merci Thibault Lefebvre à Jérusalem.
C'est une preuve supplémentaire de l'incertitude qui domine toujours et encore au Proche et Moyen-Orient.
Ce matin, les rebelles houthis du Yémen ont revendiqué 2 attaques contre un porte-avions américain en mer Rouge en riposte aux frappes menées samedi par les États-Unis contre la rébellion et qui ont fait 50 de morts et près d'une 100 de blessés. Alors c'est vrai que ces affrontements sur fond de guerre à Gaza existaient déjà avant le retour de Donald Trump au pouvoir, mais sans doute que l'entreprise crise de démolition initiée par le nouveau locataire de la Maison Blanche partout dans le monde ne devrait pas arranger les choses, et en particulier s'agissant de ses relations avec le régime de Téhéran, allié justement des Houthis. Étienne Monin, bonjour.
Bonjour.
Le président américain a révélé avoir écrit une lettre aux dirigeants iraniens appelant certes à un accord sur le nucléaire, mais avec des sanctions supplémentaires et surtout, Étienne, la menace d'une action militaire en cas de refus de pourparlers.
Oui, s'il y a un risque d'escalade autour de la mer Rouge entre les navires de guerre américains et l'arsenal des milices Houthis, l'épicentre de cette affaire est sans doute ailleurs, en Iran, autour des progrès qui sont faits sur le programme d'enrichissement d'uranium. Le président américain s'est emparé du sujet. Il a déclaré qu'il avait envoyé une lettre au guide suprême iranien début mars en disant qu'il voulait négocier. L'autre option serait d'agir, entendait militairement, car pour lui, il est hors de question que l'Iran possède des armes nucléaires. Le moment est sensible. L'Agence internationale de l'énergie atomique s'est inquiétée de l'augmentation de la production d'uranium enrichi. Elle se rapproche du seuil critique de l'utilisation militaire. Une motion avait été adoptée en novembre dernier pour tenter d'améliorer la coopération sur ce sujet. Mais l'offensive du président américain n'a pas produit d'effet. L'ayatollah Khamenei a annoncé et a dénoncé un simple coup de publicité du président américain, et il réaffirme que le programme nucléaire iranien est destiné à des fins civiles et non militaires. Donald Trump a pourtant tenté de mettre une pression maximale. Il a soumis l'Iran à de nouvelles sanctions contre l'industrie pétrolière et il demande aux Iraniens sur les réseaux sociaux de lâcher les Houthis du Yémen, sinon nous ne serons pas indulgents envers vous. Là encore, les Iraniens ont rejeté ce qu'ils considèrent comme une intrusion dans leur politique étrangère, et les Houthis, de leur côté, sont entrés donc ce week-end dans l'engrenage de la violence malgré la disproportion des forces.
Merci Étienne Monin. Donald Trump a fait savoir qu'il prévoyait de s'entretenir demain avec Vladimir Poutine dans le cadre des démarches entreprises par Washington pour trouver une issue à la guerre en Ukraine. Le président américain espère convaincre son homologue russe d'approuver un plan de trêve de 30 jours accepté la semaine dernière par Kiev et que le maître du Kremlin a dit soutenir tout en suggérant de le remanier. Elle avait une lumière particulière, une actrice prolifique aux jeux subtils révélée à 18 ans pour sa prestation sauvage en même temps que son premier rôle dans le film des frères Dardenne, Rosetta. Emily Duncan est décédée hier des suites d'un cancer. Elle était âgée de 43 ans. Tournée, c'était sa vie, et l'annonce de sa maladie en plein vol, c'est l'archange foudroyé, a réagi ce matin chez nos confrères de France Inter, le cinéaste Luc Dardenne, lequel se souvient du premier casting de la jeune actrice.
C'est terrible, c'est dégueulasse. La vie, parfois, chaîne de vie, c'est vraiment trop jeune. Elle avait encore tellement de choses à faire, en plein vol, quoi. C'est l'archange foudroyé. Elle était très intuitive et elle comprenait tout de suite. Elle était intuitive, mais elle travaillait aussi, elle travaillait beaucoup. Elle aimait ça, elle aimait travailler, recommencer, trouver autre chose. Et nous aussi, on aimait ça. Donc voilà, et je pense que les cinéastes à qui elle a travaillé, c'était la même chose, qu'ils aimaient aussi le travail avec elle et découvrir des choses. Non, elle était toujours partante, toujours prête à partir au combat, toujours. Elle adorait tourner, elle adorait, c'était sa vie. Mais elle, son rêve, quand on l'a rencontrée, elle disait « Moi, je rêve de jouer Madame Sans Gêne ». C'était son rêve, ça. Loin de Rosetta, oui, loin de Rosetta. Elle était comme ça, Émilie. Elle a fait Rosetta, mais elle disait toujours « Mais je ne suis pas Rosetta ». Et quand on est venu à Cannes pour présenter le film, elle avait peur qu'on ne pense qu'elle était Rosetta, que sa vie était Rosetta. Alors elle disait « Il faut que je monte, je vais m'habiller, je vais faire ci, je vais faire là ». Elle voulait qu'on ne la confonde pas avec Rosetta. C'est une personne magnifique dans la vie, c'est une personne magnifique avec ses proches. Et tout ce qu'elle faisait, on sentait que la caméra l'aimait et qu'elle était là. Voilà, elle était là.
Voilà, le cinéaste Luc Dardenne qui réagissait donc ce matin à l'annonce de la mort de l'actrice belge Emily Duncan, décédée à l'âge de 43 ans. C'était le 17 mars 2020, la France plongeait subitement dans un choc silencieux, le confinement, et bien 5 ans plus tard. Comment entretient-on la mémoire de cette période de sidération à la fois spectaculaire et inédite? Et comment ce travail mémoriel lié à la pandémie de Covid-19 a-t-il évolué? Cécile de Kermasdo a posé la question à Laetitia Altani-Duo, anthropologue, présidente de l'Institut Covid-19 Admo Memoriam, par ailleurs autrice d'un ouvrage du même nom publié ce mois-ci à la Documentation française. Elle est aujourd'hui l'invitée de la rédaction.
Oui, bonjour. Vous travaillez sur la mémoire du Covid et vous vous en êtes saisi presque instantanément puisque, alors que nous commencions tout juste à être confinés, il y a 5 ans, votre institut, donc Covid-19 Ad Memoriam, voyait le jour. Pourquoi c'était si important, à votre avis, de travailler sur cette mémoire et ce, dès le départ? Pourquoi?
Très vite, hein, donc dès mars 2020, il m'est apparu en effet essentiel de collecter les traces et mémoires, ordinaires comme extraordinaires, de la pandémie. Il était clair que nous étions en train de vivre un moment singulier en France, mais aussi à l'échelle internationale, parce que si on se souvient, plus de la moitié de la planète a été confinée au même moment. Cette peur d'un virus, les mesures qui ont été prises aussi pour y répondre, tout un ensemble de choses qui ont impacté nos vies quotidiennes, il fallait absolument collecter à chaud les façons dont on tous vivions cette épidémie avec deux objectifs dès le départ. Transmettre ce que nous étions en train de vivre aux générations à venir et puis se préparer aux crises à venir. Il ne s'agit pas juste de garder en mémoire ce qui nous arrive, il s'agit aussi d'en faire quelque chose et en particulier peut-être de nourrir notre démocratie pour que, à l'avenir, face à d'autres crises qui arrivent, qu'elles soient épidémiques, sanitaires ou qu'elles relèvent, on en parle de plus en plus aujourd'hui de questions de défense ou même de questions militaires, on nous le dit, on puisse traduire ce qui nous est arrivé en enseignement pour faire face ensemble.
Qu'est-ce que vous avez recueilli finalement depuis 5 ans et qu'est-ce que ça dit de notre société? J'imagine qu'il y a une grande diversité de témoignages, mais qu'est-ce qu'il en ressort 5 ans plus tard?
Alors, dans l'Institut, on a fait énormément de choses, je vous en fais grâce aujourd'hui, hein. Beaucoup, beaucoup de recherches, des expositions, des conférences, etc. Je voudrais vous parler en particulier d'un livre qui est sorti il y a quelques jours, le 13 mars précisément, pour les 5 ans de la pandémie aujourd'hui, qui s'appelle Covid-19 Ad Memoriam, fragments pour les mémoires, et qui présente 3 choses. D'abord, toute une série de ces témoignages que les Français m'ont confiés sur leurs expériences en temps de pandémie, sur une période longue entre 2020 et 2024.
Et qu'est-ce qu'ils racontaient?
Une deuxième série de données. Je vous présente le livre et après je vous réponds. Des objets, il y a des formidables photos dans ce livre d'objets du quotidien que le MUSEM, le musée à Marseille, a collectés. Puisqu'alors que je lançais un grand appel à témoignages en français, des témoignages écrits, le MUSEM a lancé un grand appel à témoignages sous forme d'objets du quotidien qu'il a rentré dans ses réserves et qu'il m'a confié. Et donc, j'ai été prendre en photo avec un photographe, Olivier Foulon, ces objets du quotidien. Et donc, les témoignages que les Français m'ont confiés, ces objets du quotidien, se répondent en écho au fil des pages. Et puis, 3e corpus, des dessins. Pour ceux qui ont été dans les hôpitaux publics en 2020 et 2021, vous vous souvenez peut-être qu'il y avait beaucoup d'affiches, de dessins de Plantu. Et Plantu m'a fort gentiment aussi confié ses dessins. Donc, dans ce livre, vous avez les témoignages des Français en temps de pandémie, leurs objets et des dessins.
Et qu'est-ce que ça dit de la société? Qu'est-ce que ça raconte, en fait?
Ça raconte à la fois des morts, à la fois des deuils, à la fois des maladies. Ça raconte la déscolarisation, ça rencontre les peurs, mais ça raconte aussi ce que certains appellent des moments bénis, un temps précieux où les gens ont pu se retrouver pour certains, ont pu revisiter leurs priorités. Certains ont déménagé, d'autres ont divorcé. D'autres encore, finalement, ont pu tirer de ce temps arrêté, de ce kairos, une nouvelle façon de vivre. Et donc, le livre présente cette palette de façons dont les Français ont pu vivre cette pandémie. Il raconte aussi, et c'est très fort, toutes les solidarités locales qui ont permis à la société de tenir, des solidarités à l'échelle des familles, mais des quartiers, des immeubles, des associations, des solidarités, par exemple, en matière de distribution de nourriture, d'accompagnement face à la mort. Et c'est peut-être là aussi, dans les interstices de la réponse de l'État, dans ces solidarités locales que ces témoignages décrivent, qu'il y a forcément des enseignements à tirer pour les crises à venir.
Je vous remercie. Merci d'avoir été avec nous.
Voilà, Laetitia Altani, duo, donc anthropologue, présidente de l'Institut Covid-19 Ad Memoriam. Elle répondait à Cécile de Quinze-Douai. Merci également à Louise Guérin pour la préparation. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Couvert de la Bretagne au Val-de-Loire jusqu'en Bourgogne, ensoleillé partout ailleurs. Quant aux températures, elles seront comprises entre 8 et 14 degrés. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par Nicolas Paumé. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.